Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière ce micro pour ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Mars, c'est le mois de la nutrition et j'avais envie de souligner ça au cours de tout le mois de mars et ce, une fois par semaine avec des chroniques destinées à l'alimentation. Et pour lancer le bal, Amélie Baillargeon sera là en deuxième partie d'émission, elle qui est nutritionniste et qui a écrit récemment un article sur le blog d'Extenso sur les applications mobiles en alimentation et sur la santé. C'est très, très intéressant, vous le verrez. Mais d'abord, les approches ou encore les thérapies complémentaires en santé, ça semble être de plus en plus utilisé, de plus en plus apprécié de la population. On les utilise pour différentes raisons. Ça peut être pour maintenir la santé, celle de nos enfants, de la famille, ou c'est amener un soulagement qui peut être en parallèle d'une médication ou un soulagement qui peut être rapide, plus rapide de la douleur, mais aussi malheureusement pour trouver une solution à la médecine conventionnelle qui ne donne pas toujours les résultats qu'on voudrait ou qui n'est tout simplement pas accessible. Aujourd'hui, on se demande en quoi ces médecines-là peuvent réellement nous aider. Est-ce que c'est fiable? Il y a beaucoup de débats à ce sujet-là et j'en parle à l'instant avec le Dr Jean Drouin, professeur de clinique à l'Université Laval, chef du service de planification des naissances du CHUC et auteur. Bonjour Dr Drouin.
Oui, bonjour.
Il est important de dire aussi que vous avez une formation, en plus d'être médecin, en ostéopathie, en homéopathie, en médecine chinoise également. Et tout ça en plus d'être un médecin, là, comme je le disais, il y a une médecine occidentale scientifique qui s'allie, dans votre cas, à des médecines alternatives, mais ce sont deux façons extrêmement différentes, je pense, de percevoir le corps, la santé, la maladie. Comment vous faites pour allier ça?
Effectivement, là, votre question est super parce que c'est extrêmement difficile, surtout dans mon début de pratique, d'allier tout ça. Et finalement, ce qui a fait que j'ai fait différentes formations, c'est qu'à un moment donné, en début de pratique, je voyais les limites tranquillement, surtout dans le cadre des maladies chroniques qu'on trouvait, par exemple, le contrôle de la douleur, quelqu'un qui a mal dans le dos à part des années d'anti-inflammatoires et de faire des infiltrations et des traitements physiques, on était souvent limité. Donc finalement, j'observais les limites de la médecine et je me suis dit, mais je vais aller voir dans d'autres médecines. Et quand la première médecine que j'ai étudiée, c'est la médecine chinoise. Évidemment, il n'y a pas plus des paysans que la médecine chinoise parce que, évidemment, c'est une médecine d'observation, c'est une médecine où on prend les pouls chinois, on s'initie aux méridiens d'acupuncture qui n'ont aucun rapport avec les systèmes nerveux qu'on connaît, les nerfs qu'on avait étudiés en médecine. Pour tranquillement toujours placer ça sur le côté de la recherche. Moi, je me suis dit, un scientifique, c'est quelqu'un qui évalue, puis si je vois que les gens vont mieux, peut-être que les plus incrédules vont me dire c'est placebo, mais la personne va mieux, puis tranquillement, on va essayer d'avancer. Et j'ai fait la même chose avec l'ostéopathie par la suite, avec l'homéopathie, essayer de comprendre un peu toutes ces médecines-là qui ont des concepts extrêmement différents et parfois même opposés à la médecine conventionnelle. Mm-hmm. Et ce qui était difficile pour moi, c'est de dire, quelque part, en médecine, on est habitué, on a des études qu'on dit randomisées, avec un placebo, on doit évaluer un médicament, et ainsi de suite. Mais dans ces médecines-là, c'est l'être humain qui est au centre. C'est difficile d'évaluer tout ça dans l'être humain qui a moins mal, qui a plus mal, qui gère mieux, qui va s'améliorer ou non. Alors, finalement, c'est le patient qui est son propre contrôle. Et là, ça devient extrêmement complexe d'appliquer les méthodes de recherche traditionnelles à la médecine chinoise et aux autres médecines, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, là je vous parle des années 75 à 80, mais dans les dernières années, autour de 2013-2015, là, on a commencé à comprendre, par exemple, l'acupuncture, comment ça fonctionne, les études sur les TNF-alpha, c'est-à-dire les facteurs qui nous montrent que l'inflammation diminue. Et tranquillement, commence avec les instruments de recherche qu'on a à pénétrer et à comprendre un peu mieux ces médecines-là.
D'après vous, et vous l'utilisez, j'imagine, au quotidien avec les patients que vous rencontrez, comment ces médecines que l'on dit complémentaires peuvent justement compléter la médecine dite occidentale?
Ma façon de pratiquer moi, dans le bureau, c'est que quand quelqu'un vient me voir, prenons l'exemple simple d'un trouble digestif. Un trouble digestif qui perdure, qui dure depuis des semaines. Je vais toujours essayer de voir l'état de la matière. Est-ce que, par exemple, notre individu a un trouble digestif? Est-ce qu'il y a un cancer de l'estomac? Est-ce qu'il y a des troubles du foie? Et ainsi de suite. Donc, au départ, je procède par ce que j'appelle le concept de santé globale, c'est-à-dire de voir dans les tests médicaux, est-ce qu'il y a des lésions qui sont mesurables? S'il n'y en a pas, et ça arrive fréquemment, le patient a quand même mal. Et c'est là où je retrouve des gens qui ont vu, qui ont consulté dans le domaine médical et qu'ils se font dire, ben vous avez rien. C'est pas vrai que le patient a rien. La personne qui a consulté a des symptômes. La médecine n'a rien trouvé de médical, de mesurable, mais cette personne-là va pas bien. Alors, finalement, là, c'est là où les approches comme la médecine chinoise, comme l'ostéopathie, la naturopathie, la diététique, et ainsi de suite, vont nous dire, on travaille sur des fonctions. Donc, peut-être que cette personne-là a un trouble digestif parce que son alimentation n'est pas adéquate. Elle est peut-être intolérante au blé, aux produits laitiers. Donc, on doit aller dans un univers un peu plus large que juste le médicament, en disant, on va vous donner un médicament pour régler votre problématique digestive comme telle. Et là, évidemment, dans le concept de santé globale qu'on va chercher, bien, c'est l'émotion. Je veux toujours en mémoire, à un moment donné, un monsieur qui consultait et avait des troubles digestifs seulement le soir, jusqu'au jour où il avait fait le tour de la gastro, de toute l'investigation complète médicale. Et le seul problème, c'est que le soir, il ne digérait plus sa conjointe. Il n'était plus capable de vivre avec. Finalement, le trouble digestif était un stress important qu'il vivait et que finalement se retrouvait manifesté dans la digestion. Alors, finalement, c'était pas un cancer, c'était pas un problème de foie. Alors, c'est là qu'on doit investiguer large. Mais évidemment, c'est un... Tout ça, tout ce qu'on se dit là est super intéressant, mais ça va dans l'encontre de l'évolution de la médecine actuelle où on parle du projet de loi 20, on dit on doit avoir des patients, on doit aller vite, ainsi de suite. Mais je pense que les médecines dont on parle aujourd'hui seront aussi très populaires parce que les gens vont aller de plus en plus voir d'autres thérapeutes si on ne trouve pas du côté médical cette écoute-là pour trouver d'autres solutions.
Oui, parce que prescrire un anti-inflammatoire, Dr Drouin, ça prend 2 secondes et quand, vous le savez mieux que moi, tandis que investiguer jusqu'à peut-être mettre le doigt sur une relation amoureuse qui ne fonctionne plus, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Exactement. Et moi, j'ai toujours eu comme optique, comme opinion en médecine, qu'il faut trouver le plus possible la cause. Et si on prend du temps un peu plus pour mettre le client ou le patient dans le coup, ben, il va revenir moins souvent. Parce que s'il n'est pas bien dans sa peau, sa relation amoureuse va pas bien, ben le corps va somatiser, il va revenir avec différents symptômes. Une autre fois, ça va être mal dans le dos. Une autre fois, ça va être un autre mal à la tête, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu tout ça. Mais ça prend du temps, comme vous dites. Vous avez tout à fait raison.
Est-ce que c'est une façon de dire que l'esprit a un réel impact sur le corps aussi?
Ah, moi, je suis convaincu que notre façon de voir, et j'ai tellement vu des gens pendant toutes ces années de pratique venir au bureau, dire, moi, je pense que je vais avoir un cancer, je pense que j'ai un cancer, finalement, ils finissent par en avoir un, à un moment donné, au bout de la ligne. Donc, le contrôle en santé globale, selon moi, il y a, bon, du côté de l'alimentation à revoir, l'exercice, comme on le dit toujours, la gestion des stresseurs. Notre environnement, on l'oublie aussi un peu trop, l'environnement, que ce soit le bruit, que ce soit les champs magnétiques, que ce soit les acariens, que ce soit les moisissures, mais notre esprit, que moi je mets sur le chapeau du spirituel, le sens de la vie, notre vision des choses, est extrêmement importante sur la sécrétion de nos endorphines, par exemple nos propres antidouleurs, que sur l'arrivée d'accidents même à un moment donné, ainsi de suite. Donc il y a comme ça cette conviction qu'on doit avoir à un moment donné, de dire à quelque part, on doit le plus possible métaboliser ou gérer le négatif et s'organiser pour être le plus possible dans un mode d'harmonie, si on veut.
Mm-hmm. Docteur,
oui,
pardonnez-moi, je vous ai coupé. J'étais curieuse de savoir, À quel moment vous recommandez les médecines complémentaires? C'est-à-dire que, est-ce que ça va de soi quand il y a un patient devant vous pour XX problème, vous y allez avec ça ou vous y allez avec la personnalité de la personne qui est devant vous?
Je vérifie beaucoup les valeurs de la personne, l'individu comme tel. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dort pas. Il vient me voir, puis il a un problème de sommeil, puis le choix facile, c'est de lui donner un somnifère. Ça, c'est sûr que c'est pas compliqué en choix. Mais moi, j'essaie premièrement de comprendre pourquoi il dort pas, puis après ça, de voir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'on peut essayer des plantes en commençant? Puis l'important, c'est qu'il dorme. Est-ce que je peux lui enseigner une méthode de relaxation comme le training autogène? Est-ce que je peux lui donner des moyens que s'il se réveille la nuit, il va s'endormir. Prenons l'exemple de la cohérence cardiaque et ainsi de suite, de différents exercices qu'on peut lui donner. Mais parfois, les gens ne sont pas réceptifs. Ils vont dire, moi, donne-moi un somnifère, je veux dormir, je suis pressé. Alors là, finalement, l'important, c'est que la personne dorme, parce que moi, je connais les effets négatifs du sommeil sur la santé. Mais sur le long terme, l'individu, j'essaie toujours de lui dire, bien, il y a peut-être d'autres moyens beaucoup plus simple, beaucoup moins chimique, parce qu'on sait très bien que si on donne un somnifère, surtout si la personne est très jeune, il risque d'avoir une accoutumance,
ben oui,
une difficulté à arrêter, ainsi de suite. Donc, mais tout ça, ça prend du temps parce que moi, je veux savoir pourquoi il dort pas. Est-ce que c'est un problème au travail? Est-ce que encore là, c'est un problème amoureux ou peu importe, mais il y a une raison quelque part aussi. Il y a des gens qui ont une physiologie du sommeil, ils vont dire c'est fragile, oui, c'est vrai, mais il y a aussi le cycle du sommeil, je vérifie. On sait qu'on a des cycles de 90 minutes, par exemple. Donc, à partir de ça, bien, l'individu, il y a des gens qui dorment moins d'eau et qui vont bien. Mais en ce moment-là, on essaie de coller à son cycle. Donc, il y a tout un enseignement santé que malheureusement, les médecins, le côté médical n'a pas le temps. Si on veut, c'est pas parce qu'ils n'y croient pas souvent. Mais si on travaille en équipe, en multidisciplinaire, ça devient intéressant, mais ce qui est difficile actuellement, c'est de travailler en interdisciplinaire avec les médecines complémentaires, parce que je peux pas travailler, par exemple, avec un naturopathe dans mon bureau, je peux pas travailler avec même un ostéopathe, parce qu'il n'y a pas de corporation professionnelle. Nous, comme médecin, on doit travailler, collaborer avec des gens qui sont membres de corporations professionnelles. Alors, c'est ça qui est la difficulté du développement dans ces approches-là, dans ces médecines-là, de l'interface entre la médecine ou j'ai à recommander d'aller voir un naturopathe pour des études de vie ou une diététiste. Ça, on peut le faire parce que la diététiste est membre d'une corporation professionnelle. Donc, c'est un peu cette difficulté d'organisation dans les médecines naturelles qu'on a ici au Québec qui date depuis peut-être 40 ans et plus.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Dr Drouin, parce que c'est assez rare qu'un médecin va prescrire une séance en acupuncture ou une séance en naturopathie. Vous le faites, là, on le comprend assez bien, mais est-ce que vos collègues sont portés à agir ainsi?
Au départ, excusez-moi, il y a des réactions. Même moi, quand je le fais, je dois référer, comme je disais, à des gens qui sont membres de corporations professionnelles. Donc, en acupuncture, il n'y a pas de problème. En diététique, il n'y a pas de problème. En physiothérapie non plus. Mais dès que je réfère en naturopathie, là, ça devient plus compliqué en soi. Mais les collègues en médecine n'ont pas eu aussi ces formations-là ou cette information-là à la faculté de médecine. Donc, ils ne sont pas portés à référer. Ils sont portés à se dire, c'est pas scientifique, il n'y a pas de rigueur. Alors, je connais des gens qui sont des gens extrêmement rigoureux en naturopathie, en acupuncture, dans le domaine de la médecine chinoise, qui sont des scientifiques hors pair, redoutables. Puis, finalement, il y a encore une tiédeur de la médecine envers toutes ces médecines-là et envers surtout une référence à ce niveau-là. Oui. Mais je pense que de plus en plus, les gens s'informent, consultent d'eux-mêmes. Mais la difficulté, je l'ai écrit d'ailleurs dans un de mes livres à un moment donné, c'est que vous prenez ce soir, vous avez mal dans le dos. On avait écrit ça dans les exercices qui vous soignent.
Oui.
Et vous allez consulter qui? Un médecin, un naturopathe, un physiothérapeute, un chiropraticien, un ostéopathe, un acupuncteur, un massothérapeute.
On s'y perd, voilà.
Il y a quinzaine de personnes que vous pouvez consulter et on a besoin de quelqu'un qui peut nous orienter. Et s'il y avait une intégration de tout ça, par exemple, il y a un diagnostic médical, si votre mal de dos a une hernie discale, bien évidemment, le traitement va être différent que si c'est un mal de dos de stress ou de posture ou ainsi de suite. Donc, c'est un peu cette difficulté-là que je dénonce souvent du travail interdisciplinaire pour orienter les gens qui mettent des fortunes. Si vous allez voir 10 spécialistes pour le mal de dos, c'est là vous allez avoir un problème financier ou la ligne du plus mal de dos qui va être le problème.
Ouais.
C'est ça qui est la difficulté Les gens sont démunis. On y va avec les contacts, les connaissances. Une de vos amies vous a dit, ben là, j'ai un massothérapeute qui m'a bien aidé pour mon mal de dos. Ben, vous allez le voir. Puis, alors, c'est un peu tout ça qu'on se retrouve. Donc, on est extrêmement seul quand on est pris avec un problème de santé et qu'on veut aller autre ou aller plus loin que le médicament en disant, oui, je prends mon médicament pour traiter l'inflammation, mais plus loin, je veux m'en sortir de mon mal de dos, je veux pas toujours obligé de prendre des anti-inflammatoires jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu tout ça.
Ouais. Et je reviens à quelque chose que vous venez de mentionner, que je trouve très intéressant. Dans les facultés de médecine, les futurs médecins ne sont pas formés suffisamment aux médecines complémentaires, mais quand un patient arrive chez son médecin de famille et qu'il consulte en parallèle un ostéopathe ou un acupuncteur, et si on lui dit, si on lui donne cette information-là à notre médecin et qu'il n'est pas formé, il ne sait pas quoi faire avec ces renseignements-là.
Exactement. Il ne sait pas comment orienter ou intégrer son traitement. Et c'est là le drame actuellement. Ou encore, il va vous dire, ben moi, je ne crois pas à ça. Ouais. La plupart des médecins, de plus en plus, sont plus tolérants, vont dire, ben si vous y croyez, continuez. Tu sais, c'est ce que j'entends. Là, alors que moi, quand j'ai commencé à pratiquer ce genre d'approche-là, là, les médecins étaient même agressifs là, en disant, si vous continuez à aller voir l'acupuncteur, venez plus me voir. Tu sais. Donc, il y a eu une progression, si on veut, dans la pensée médicale, mais cette progression-là n'explique pas non plus la compréhension. Tu sais, ne permet pas de comprendre la personne que l'acupuncteur travaille à tel niveau de mon mal de dos. De l'autre côté, l'ostéopathe va m'aider là-dessus ou vous allez me donner des exercices pour la posture. Ben, c'est un peu tout ça qui va faire que la personne va sortir de son mal de dos de façon intégrée, si on veut.
Est-ce qu'il faut quand même le dire, Dr Drouin, à notre médecin? Oui, c'est important.
Oui. Moi, je pense que, excusez-moi, comme personne, comme être humain, moi, j'aime mieux le dire au médecin à ce moment-là. Là, en disant, ben voici, moi, je fais ces traitements-là. Je crois dans ces traitements-là. Je pense qu'ils me font du bien. Au risque de perdre votre médecin en soi, mais si vous perdez votre médecin là-dessus, je crois qu'actuellement, où les médecins sont difficiles à trouver, là, mais je pense qu'on est mieux d'aller avec un médecin qui correspond un peu plus avec notre forme de pensée en santé et notre forme de notre manière de vivre aussi en même temps.
Mm-hmm. Et en terminant, Dr Drouin, vous avez dit à plusieurs reprises pendant cette discussion, bah, si tu y crois, continue. T'sais. Est-ce que c'est important d'y croire pour que ça fonctionne? C'est un petit peu un mythe, ça, de dire, OK, ben, si tu y crois, OK, continue, ça va fonctionner. Mais est-ce que ça peut fonctionner même si le patient d'entrée de jeu n'y croit pas?
Oui, moi, je pense qu'au départ, si on y croit, c'est sûr qu'on se donne un petit peu plus de chance comme tel. Mais je vous dirais, le temps va nous manquer, mais avec mes grands succès dans le domaine des approches différentes en santé ou intégrées, ce sont des gens qui n'y croyaient pas. Je suis souvent en contact avec les scientifiques à l'hôpital et tout ça, puis je leur disais, par exemple, c'est donc telle plante pour dormir, puis l'exemple que je cite toujours, c'est l'huile essentielle d'orange qui est un produit intéressant qu'on doit prendre de façon très méticuleuse dans l'huile d'olive au coucher. Les gens ne croient pas. Ça sent bon à part de ça, mais on sait quand du côté des huiles essentielles, de l'aromathérapie, c'est très scientifique parce qu'on est capable de mesurer des produits à l'intérieur. Et les gens m'ont réécrit, on a arrêté des somnifères avec ça. Je ne dis pas que ça marche, ça fonctionne tout le temps, mais c'est intéressant. Donc, ces gens-là, ils ne croyaient pas. Et finalement, ils ont été surpris de dormir bien avec ça. Puis d'autres, ça ne fonctionne pas. Mais c'est, donc, oui, la croyance est intéressante, mais c'est aussi pas toujours le cas. Donc, il y a un effet réel de ces produits-là qui, comme tout le reste, agit mieux chez certains, moins bien chez d'autres. Et ça, c'est tout le mystère.
Comme un médicament, finalement.
Exactement.
C'est un monde fascinant. Dr Drouin, merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. Vous êtes professeur de clinique à l'Université Laval, chef du service de planification des naissances du CHUC, auteur de ce livre « Les exercices qui vous soignent » publié aux Éditions de l'Homme. Et ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
C'était un plaisir partagé.
Au revoir.
Merci. Bye.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour Amélie Baillargeon.
Bonjour Marianne.
Vous êtes nutritionniste et on apprenait sur le blog d'Extenso en janvier que vous étiez dotée d'un téléphone intelligent pendant la période des fêtes.
Oui, tout à fait.
Afin de découvrir des applications mobiles sur votre sujet préféré qui est l'alimentation, la santé aussi. C'est un peu ironique, j'ai oublié mon téléphone intelligent aujourd'hui, Amélie. J'aurais aimé pouvoir parcourir davantage les applications que vous nous proposez aujourd'hui, mais j'ai quand même eu le temps d'établir quelques coups de cœur aussi de mon côté, notamment Dirty Dozen, qui est pour moi plutôt fascinant. Comment savoir si on achète bio ou pas?
Mm-hmm. Effectivement, c'est une application toute simple, mais très, très intéressante parce que elle a été créée par l'Environmental Working Group, donc un organisme américain qui un peu étudie plein de sujets, dont l'agriculture et aussi l'impact de l'agriculture conventionnelle et biologique sur les fruits et les légumes. Donc, un peu dans la foulée de leurs études, ils ont décidé de créer deux listes bien distinctes, donc la Dirty Dozen, donc les 12 fruits et légumes les plus contaminés, entre guillemets, des principaux pesticides, et la Clean 15, qui est la liste des 15 fruits et légumes qui, eux, sont sécuritaires d'acheter en agriculture conventionnelle. Donc, c'est un outil qui est super intéressant puis pratique quand on n'a pas nécessairement le budget pour acheter tous nos fruits et légumes d'agriculture biologique parce que souvent, ces produits-là sont associés à des coûts plus élevés. Alors, si on veut faire une sélection, on peut se fier à cet outil-là qui propose, dans le fond, qui nous aide à mieux choisir en fonction de ces critères-là.
Et je pense que la liste est renouvelée assez souvent.
Les deux listes sont mises à jour sur une base annuelle, donc c'est un excellent outil pour ça, réduire son exposition aux pesticides, mais aussi en même temps de favoriser une agriculture qui a moins d'impact aussi sur l'environnement et sur la santé des agriculteurs qui s'occupent de ces fruits et légumes-là.
Mm-hmm. Également, Cuisine Idée, qui est une initiative des diététistes du Canada, ça me semblait plutôt intéressant pour les familles bien occupées de nos jours.
Oui, c'est un outil aussi qui est très, très agréable à utiliser. C'est un peu le Sangza des banques de recettes. Donc, on propose selon l'heure de la journée et la journée même aussi, parce qu'on tient compte des journées de semaine et de week-end, différents thèmes qui regroupent 8 recettes en général. Puis, ça peut être des thèmes comme cuisiner à l'avance, post-entraînement ou réveil savoureux. Donc, sous chacune de ces thématiques-là, on a un assortiment de recettes qui nous est proposé un peu en fonction de nos besoins de la journée. Donc, c'est une autre façon ludique de trouver des recettes relativement simples aussi à faire et bien savoureuses.
C'est une application qui a été créée à partir de 3 livres conçus par les nutritionnistes de cette association-là. Est-ce que les livres sont plus complets, d'après vous, Amélie?
Probablement que oui. J'ai pas eu la chance de consulter ces livres-là en détail, mais j'imagine que peut-être qu'il y a plus de recettes dans les livres et aussi peut-être qu'il y a des capsules d'informations nutritionnelles un petit peu plus développées dans les livres parce que, dans une application, on est toujours un peu limité par l'espace, mais Par contre, dans l'application comme telle, on retrouve le tableau de valeurs nutritives aussi et des mm-hmm. photos très alléchantes aussi quand même.
Oui, puis en même temps, l'avantage de l'application, c'est de pouvoir trimballer ça dans son sac à main, dans son sac à dos, que ça soit léger et très, très utile rapidement quand on en a de besoin.
Oui, oui. Par exemple, je sais pas, on est dans le métro, on rentre à la maison, on n'a pas planifié notre souper du soir, ben au lieu d'attendre à la maison pour consulter un de ces livres de recettes, ben on peut le faire directement dans l'application aussi et hop, passer à l'épicerie avant de rentrer et voilà, on a un repas vite fait pour la soirée même.
Un autre classique, je dirais, mais que je trouvais bien pratique, c'est celui de Greenpeace, donc le guide de thon éco-responsable.
Oui, autre application super intéressante parce que, bon, les conserves de thon sont quand même un peu, controversées étant donné les principes de pêche, durable. C'est un poisson des fois qui est mal pêché ou qui est surpêché et les stocks sont un peu mal gérés des fois aussi. Alors, pour faire des choix plus éclairés quand on veut se procurer des conserves de thon, Greenpeace a fait le travail pour nous en nous proposant, en ayant répertorié vraiment toutes les conserves qui existent sur le marché et en leur assortissant des recommandations dans le fond. On a trois catégories. Il y a la catégorie « oui, bon, acheter », la catégorie « bof », pas vraiment, ouais, plus ou moins recommandé, et la catégorie « non, vraiment, à éviter ». Puis, dans le fond, leurs critères se basent sur le type de pêche, les espèces aussi qui sont pêchées et l'engagement de l'entreprise aussi à adopter des pratiques de pêche durable aussi. Donc, ça nous permet de faire des choix plus éclairés, oui, à l'épicerie.
Amélie, le temps file à vive allure. Il reste à peu près une minute et demie à l'émission. Donc, je vous laisse y aller avec votre coup de cœur, là, celui qui est incontournable, en fait, l'application incontournable pour vous.
Une que je trouve très intéressante, c'est les fameux TED Talks, ces courtes conférences de moins de 20 minutes qui nous permettent un peu d'en apprendre plus sur un sujet vraiment plus précis. Et puis, tout un volet alimentation que je trouve qui mérite tout à fait d'être exploré. Et c'est une autre façon bien intéressante de meubler le temps de transit, que ce soit dans le trafic ou au métro, pour en apprendre un peu plus sur différents sujets en alimentation, entre autres.
Et sur cet article publié sur le blog d'Extenso, il y avait aussi FarmStand pour trouver, oui, un marché fermier à proximité. Ça sera plus en période estivale. Et Love Your Leftovers, que je trouvais vraiment bien pour éviter le gaspillage dans notre frigo. Amélie Baillargeon, ça a été trop court, mais vraiment un sujet que je trouvais très, très intéressant. Pour en savoir davantage, on va sur le site d'Extenso. Et merci d'y avoir pensé, vous qui êtes toute nouvelle là, avec le téléphone intelligent.
Autant rendre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas?
Amélie, bon mois de la nutrition.
Merci, toi aussi, Marianne.
Bye, bye.
Bye.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette derrière ce micro. Merci beaucoup d'avoir été présent. Bien sûr, on se donne rendez-vous demain. Et puis, vous pouvez toujours nous suivre Twitter, Facebook et sur notre site également. On se donne rendez-vous, demain. Mais d'ici là, portez-vous bien, toujours bien, bien important. Bye bye.